9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Le grand était le plus grand. Michel Legrand, immense créateur de musique, d'émotion, de joie. Michel Legrand vient de s'éteindre à 86 ans après une vie entière passée à composer, jouer, diriger, chanter.
Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau.
Des mélodies inoubliables, 150 musiques de films, dont celles qui ont enchanté le cinéma de Jacques Demy.
Nous sommes de sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux, mi fa sol la mi ré, et mi fa sol 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 ré do.
Michel Legrand nous avait accordé l'une de ses dernières interviews en septembre. On va en réécouter de larges extraits dans un instant, en hommage et en musique. Ce qui est arrivé cette semaine, c'est le lancement du grand débat. Les Français invités à prendre la parole face à un président qui ne lâche plus le micro. Anne Roumanoff, lundi sur Europe 1.
Le grand débat national, moi je pensais que c'était 60 millions de Français qui donnent leur avis sur plusieurs jours. En fait, c'est Emmanuel Macron qui donne son avis à 60 millions de Français sur plusieurs heures.
Aujourd'hui, nouveau samedi de mobilisation, mais il y a désormais ceux qui manifestent et ceux qui candidatent. Un embryon de liste aux européennes vient d'être présenté. Vous avez vu et entendu l'aide-soignante Ingrid Levavasseur. Vous allez découvrir dans un instant son numéro 2, un agent commercial de 29 ans, comme Dunis, possible futur député européen. Le vote jaune, ce sera très différent du vote blanc. Aux États-Unis, il n'y aura pas de mur à la frontière mexicaine et pas d'argent pour le financer, ni aujourd'hui, ni sans doute demain. Après un mois de bagarre avec les démocrates et de paralysie des administrations fédérales, le shutdown, Donald Trump a dû se résoudre hier soir à ce qu'il avait juré de ne pas faire, céder.
We have reached a deal to end the shutdown and reopen the federal government.
L'administration fédérale va donc rouvrir. Lourde défaite pour celui qui a bâti sa carrière et sa présidence sur une image de force et de confiance en soi et qui parle en toutes circonstances comme dans une cour de récréation, comme un enfant de 9 ans. C'est la langue de Trump, confuse et vulgaire, ainsi décrite par une traductrice de presse, Bérangère Viennot, qui publie un petit livre très amusant et très révélateur sur le sujet.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Michel Legrand n'est pas un compositeur, disait Jacques Demy, c'est une fontaine à musique. La fontaine vient de s'arrêter de couler et nous sommes bien tristes ce matin après l'avoir vu une dernière fois diriger lui-même ses musiques de films sur la scène de la Philharmonie de Paris début décembre. 3 mois plus tôt, nous l'avions reçu ici même pour la parution de ses mémoires « J'ai le regret de vous dire oui » avec Stéphane Lerouge. Occasion de parcourir avec lui 70 ans de vie musicale et de lui demander d'abord si l'envie, l'inspiration ne lui avait jamais fait défaut.
Non, jamais. Vous savez, quand l'amour pour quelque chose ou quelqu'un est si fort que c'est pour l'éternité.
Ouais. Alors, ce livre de souvenirs avec Stéphane Lerouge, j'ai le regret de vous dire oui, chez Fayard, c'est donc un récit gorgé de musique et de rencontres. On parlait d'inspiration il y a un instant, que quand un sujet ou des images vous inspirent, vous racontez que parfois il ne vous faut que quelques minutes, comme ce jour où on vous montre un film en salle de montage. Aussitôt, il vous vient cette mélodie. Un été 42, immense succès, vraiment quelques minutes pour trouver la mélodie,
oui.
Michel Legrand.
C'est drôle, parce que quand on voit un film si émouvant que celui-là et qu'on doit délivrer la musique dans la même soirée, ou presque, alors l'adrénaline est telle que devant une telle beauté cinématique, il faut trouver quelque chose de formidable. Et la tension est telle qu'on on trouve...
Parfois, vous le racontez dans le livre, c'est plus compliqué. Par exemple, pour les parapluies de Cherbourg avec Jacques Demy, vous imaginez d'abord des thèmes musicaux un peu trop sophistiqués pour le parler courant des dialogues du film. Il faut tendre vers quelque chose de plus simple et le déclic, dites-vous, vient avec cette chanson.
Nous sommes dans une situation difficile. Geneviève est grande et m'aide de son mieux. Elle n'est pas en cause. Mais j'ai de lourdes charges et j'ai pensé. Enfin, je dois faire face à une échéance dont les conséquences risquent fort de nous compromettre. Et je viens vers vous comme on vient au Messie.
madame.
Extra des parapluies de Cherbourg, joyau du cinéma français. Nous sommes dans une situation difficile. C'est ce dialogue-là qui vous donne le déclic, Michel Legrand.
Parce que vous avez sans doute remarqué que ce passage-là, il n'est ni jazz, ni classique.
Oui.
J'ai mis en musique un scénario écrit pour être tourné, parlé.
Parler.
Il n'y a pas d'Alexandrin.
Ils ne
sont pas liés les uns aux autres. Enfin, je veux dire, et tout à coup, quand les producteurs, qui ont tous, sans exception, refusé de mettre un centime dans cette aventure, nous ont tous dit, vous ne pensez tout de même pas que le public va rester une heure et demie dans une salle obscure pour entendre des gens chanter des banalités.
Ils ont raison. C'est ce qu'on découvre dans votre livre. Il vous a fallu, à vous et à Jacques Demy, une opiniâtreté incroyable pendant des mois. Ce film, personne n'en veut et personne n'y croit.
Non.
Il a fallu le coup de pouce de Pierre Lazareff et de
Mac Baudin. Ma propre maman, qui était éditeur de musique, elle ne veut pas l'éditer. Elle dit, ah non, cette fois, c'est un flop garanti. Non, donne-le à qui tu veux, j'en veux pas.
L'idée du film entièrement chanté du début à la fin, elle vient quand même pas mal de vous. Demy hésite un peu.
Oui, c'est-à-dire que moi, musicien, je peux imaginer un peu en avance la musique. Les autres, non.
Michel Legrand, vous êtes un surdoué de la musique, vous savez tout faire dans tous les styles.
Ça veut dire quoi ? J'aime pas trop le mot de surdoué.
Écoutez, quand on vous... parce que très tôt, vous savez composer, écrire, arranger sous la houlette de Nadia Boulanger. Vous avez appris très vite et très tôt et vous avez percé très jeune.
Ça m'était facile, j'adorais ça.
Oui, mais encore faut-il le faire. Vous avez eu des idées de génie qui vont déboucher sur des chefs-d'œuvre et parfois vous manquez de clairvoyance, vous le racontez avec beaucoup d'honnêteté. Parmi les coups de maître, ces chansons que vous composez au début des années 60 avec un jeune parolier plein de talent, mais qui ne trouve personne pour les chanter, et vous lui dites « Mais vas-y toi, tu peux chanter », et ça donne ceci.
Ce qu'il faut dire de fadaise, pour voir enfin du fond de son lit un soutien-gorge sur une chaise, une paire de bas sur un tapis. Nous les coureurs impénitents, nous les dons juju, nous les dons juan.
Claude Nougaro, les dons juan, évidemment. Ce qui est drôle, c'est que le patron de Philips, Jacques Canetti, immense monsieur de la chanson française, il croit pas beaucoup à ce Nougaro chanteur.
Il croit pas du tout même.
Quelques années plus tard, on vous sollicite pour Serge Reggiani qui va sortir un disque et vous répondez « Mais non, Reggiani c'est un acteur, il n'a pas une voix de chanteur.
Ouais, » C'est vrai.
Donc voilà, donc vous pouvez vous tromper aussi. Parfois c'est avec vos propres compositions que vous manquez de flair. Quand vous composez les Demoiselles de Rochefort, il y a un thème qui ne vous satisfait pas, trop plat. Bon, vous le gardez quand même, c'est celui-ci.
Je l'ai cherché partout, j'ai fait le tour du monde. De Venise à Java, de Mania encore, de Jeanne à Victoria, de Vénus en Joconde. Je ne l'ai pas trouvée et je la cherche encore.
Thème devenu mondialement connu, la chanson de Maxence.
C'est drôle d'ailleurs,
Demoiselle.
Parce que moi, je n'aimais pas trop la mélodie. Je dis, c'est un peu plat. C'est un peu le doigt dans le nez, non ? Ça, j'aime pas trop ça. Et ce qui m'a fait changer d'avis, ce qui m'a tourné vers ce thème, ce sont les musiciens de jazz.
Évidemment.
C'est très drôle d'ailleurs.
Et l'une de vos grandes fiertés, cette reprise par l'immense pianiste de jazz, Bill Evans. Oh. You Must Believe in Spring, son dernier enregistrement. Le disque paraît après sa mort. C'est bouleversant.
C'est terrible. Il m'avait. Alors, quand il a enregistré ça, quand j'ai su qu'il avait enregistré, moi qui l'admirais déjà depuis toujours, je suis là, on se rencontre, on s'embrasse, on parle, on aime la même personne. on aime la même musique. J'avais une passion pour lui, il m'aimait bien. Et il me dit, Michel, je voudrais que tu m'écrives un concerto. Alors moi, de l'instant qu'on me demande des choses impossibles, j'ai dit oui tout de suite. J'ai le déplaisir de vous dire oui.
C'est le titre de vos souvenirs de ce livre.
Et alors, bon, il me dit, écris pas trop dur, tu vois, parce que il avait les mains tout à fait boursouflées. Et puis, il est mort avant que je le mette au travail. Et alors, j'ai regretté. Je me suis tapé la tête contre les murs. Et puis, ça m'a fait une telle peine que... C'est la seule chose, moi, sur Terre, qui me hante, que je n'accepte pas, que je n'accepterai jamais, qui fait que la vie est un martyr. Ce sont les gens qu'on aime qui meurent. On ne peut rien faire. On est là comme des statues de sel devant l'irréparable. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'empêche de vivre.
Michel Legrand qui parle de la mort de ses proches. Michel Legrand au micro de C'est arrivé cette semaine sur Europe 1. C'était en septembre. Michel Legrand, dont on vient d'apprendre la mort à 86 ans. Il nous a tellement donné. On va le retrouver dans un instant.
Europe 1. Jusqu'à 10h, on vous retrouve, Patrick Cohen, avec C'est arrivé cette semaine sur Europe 1.
Avec la poursuite de cette rediffusion, hommage à Michel Legrand, arrangeur, pianiste, chef d'orchestre, chanteur, jazzman, compositeur de chansons et de musique de film. Un homme aux mille vies musicales. On connaît surtout ses musiques de film, mais il ne faut pas oublier, je le disais, sa carrière de jazzman, ses arrangements de variété, ses collaborations multiples, par exemple avec Boris Vian ou Henri Salvador, avec qui il a composé le premier disque de rock français.
Apportez-moi sans hésiter rock and roll bar avec du pain beurré rock and roll bar et du bifteck haché rock and roll bar avec un œuf à cheval rock and roll bar je me sens cannibale.
Alors sur le coup vous trouvez ça absolument ridicule, vous dites c'est vraiment de la petite musiquette sans...
On a passé une partie de l'après-midi avec Boris Vian chez moi pour écrire 4 chansons. Ouais. C'est-à-dire qu'on les a écrites juste le temps de jeter quelque chose.
Ouais.
Quelques notes sur un papier, et lui et quelques paroles.
Ouais.
On riait, on se moquait de nous-mêmes. Rock'n'roll mops.
Ouais, tout ça parce que vous aviez rapporté le
disque des fameux premiers rock'n'roll.
Oui, Bill Haley.
Bill Haley, c'est Bill ça. Haley. Alors, Canetti qui était avec moi à New York, me dit « Oh tiens, il faudrait qu'on en fasse un à Paris, je dis écoutez. » Non, ça ne marchera pas, c'est lamentable.
Oui, mais ça...
Oh, alors, en rentrant, on le fait. Alors, pour se marrer, comme une blague.
Ben oui, mais maintenant, vous êtes dans l'histoire de la musique comme étant le premier compositeur de rock français.
C'est que le public a pris ça au premier degré.
Bien sûr. Alors, comme vous êtes un pionnier musical, Michel Legrand, on va parcourir quelques-unes de vos premières fois. Vous êtes arrivé à monter une séance d'enregistrement, plusieurs séances d'enregistrement avec Miles Davis, qui n'était pas facile à convaincre, qui était un peu méfiant à l'égard de ce Frenchie qui venait diriger séances à New York.
Oui.
Mais vous avez réussi à faire ce disque. C'est une sorte de miracle quand on le regarde, quand on l'écoute aujourd'hui. Le Grand Jazz en 1958. Oh. On va en écouter un extrait. In Tunisia, évidemment, le titre de Gillespie, avec au casting, il faut bien, on se pince en regardant la pochette, Miles Davis, John Coltrane, Phil Woods, Paul Chambers, Bill Evans, au piano encore, Herbie Mann, la flûte, extraordinaire enregistrement avec des gens qui n'ont pour certains plus jamais joué ensemble, mais
jamais.
Que vous avez réussi à réunir, Michel Legrand.
Surtout auprès de Miles. J'ai demandé à Miles, j'ai dit, Miles, tu crois que voilà, avec toi, il y aura un tel, un tel, un tel. Alors il fronce les sourcils, il lit attentivement, lentement, il me dit « Ça va, tu peux les prendre.
» Autre premier film, et unique film d'ailleurs, comme metteur en scène, 5 jours en juin,
ouais.
Et l'immense Ray Charles,
ouais.
Qui pour ce film, Michel Legrand, ouais. Vous fait le cadeau d'une chanson.
C'est vrai.
« One day she loved one day she leaves you. Summer's gone, winter's here, and love makes the changes you do. One day.
Vous racontez qu'en un rien de temps, Red Charles s'est approprié la chanson comme si elle faisait partie depuis toujours de son répertoire.
C'est très extraordinaire.
Bah, c'est
on lui avait joué la musique deux ou trois fois. Donc il la connaissait par cœur et alors il suivait en braille devant le micro le texte de mes amis les Bergman. Et il adore la chanson et on a fait un disque fou, un disque. Je crois que c'est la première fois qu'il a chanté de façon aussi extraordinaire, me dit Quincy Jones, qui lui a tout vu, tout connu. Et alors, la suite de quoi? C'est fou, c'est-à-dire que la musique fabrique des amitiés à d'une telle solidité que c'est encore plus solide que le pont de Gênes. Vous voyez?
Et vous avez chanté, vous aussi, Michel Legrand,
oui.
Au milieu des années 60, oui. Vous sortez un premier disque, oui, de chansons avec votre voix. On trouve notamment ceci.
Quand ça balance, on est deux, le jazz et moi. Je crois même qu'on est trois. La contrebasse, la batterie, le jazz et moi. Ça fait déjà plus que ça. Le vibraphone, les trombones, le jazz et moi. Quand on s'est donné le la, il ne manque plus que les trompettes. Et puis voilà, ça me cogne dans les doigts.
Quand ça balance, Michel Legrand, on a évoqué beaucoup de souvenirs, enfin quelques-uns en tout cas de vos souvenirs musicaux, mais votre actualité, elle s'écrit aussi avec deux mains dans la phrase, puisque vous avez encore des projets. Podane qui va se jouer au théâtre Marigny,
oui,
dans une adaptation. Et puis, on a l'impression que vous avez envie là aujourd'hui de refermer des vieux dossiers ouverts il y a quelques années. La musique d'un film posthume d'Orson Welles. Racontez-nous. En fait, c'était une indication. Orson Welles, en composant, en imaginant son film, il avait dit, il avait écrit quelque part, ouais, cette musique doit être composée par, ouais, Michel Legrand.
Et avant de mourir, il a laissé des ordres aux gens qui allaient travailler sur son film de me demander la musique. Voilà. Ceci est arrivé il y a quelques mois, après 25 ans, dans un tiroir.
C'est formidable.
Ouais.
La musique du dernier film d'Orson Welles, qui restera la dernière œuvre de Michel Legrand, géant de la musique, qui vient de disparaître à 86 ans. Il y aura d'autres hommages, évidemment, sur l'antenne d'Europe 1 aujourd'hui. Dans un instant, un gilet jaune qui rejoint le système et se présente aux élections comme Dunis, numéro 2 de la liste, d'une liste gilet jaune aux européennes, sera notre invité.
Europe 1. Vous écoutez, c'est arrivé cette semaine avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour Comme Dunis.
Bonjour monsieur.
Comme numéro 2 d'une liste gilet jaune, si tout se passe comme vous le souhaitez, vous devriez devenir député européen dans 4 mois. Alors, est-ce que vous voulez bien vous présenter? Qui êtes-vous?
Tout à fait. Alors, je m'appelle Comme Dunis, je viens de Montargis, j'ai 29 ans et je suis commercial.
Et la politique jusqu'à présent, ça vous intéressait?
J'ai toujours été intéressé par la vie politique de mon pays, pour mon pays, pour la France. Et j'étais très dessus de toute la classe politique qu'on a pu voir depuis les dernières décennies.
Vous votez?
Tout à fait.
Vous votez à chaque élection?
Je vote à chaque élection parce que pour moi c'est un devoir de citoyen. Il y a des personnes qui sont mortes pour le droit de vote. Donc aujourd'hui on se doit de voter. Et justement le gros problème c'est qu'on a beaucoup d'abstentionnistes en France qui ne se reconnaissent plus dans cette classe politique. Et je les invite vraiment à se remobiliser, à revoter et essayer de se reconnaître dans notre parti qui est un parti citoyen.
Est-ce qu'on peut savoir aux dernières élections pour qui avez-vous voté?
Alors aux dernières élections, au second tour, j'ai été obligé de voter Emmanuel Macron. Je n'allais pas voter pour un candidat extrême.
Et au premier tour?
J'ai voté aussi Emmanuel Macron.
Au deux tours? Quand avez-vous commencé à porter un gilet jaune?
Le 17 novembre, j'ai porté un gilet jaune.
Dès le premier samedi de mobilisation, qu'est-ce qui vous a mobilisé?
Ce qui m'a mobilisé le 17 novembre, c'est le pouvoir d'achat, hein, la première mesure revendicative, notamment la hausse de la taxe sur le carburant,
ouais,
qui a été un véritable enfumage pour les citoyens, puisqu'on voit très bien que cette taxe pour le carburant a augmenté du 1er janvier au 31 décembre 2018 de 3,9 milliards d'euros, et seulement 80 millions a servi à payer la transition énergétique. Mmh. Où est passé le reste? On ne sait pas. On fait culpabiliser les citoyens pour les taxer de plus en plus, alors que les plus gros pollueurs, on le sait, c'est l'industrie qui ne sont pas eux taxés à cette hauteur-là.
Alors ça, c'est ce qu'on entend là, à l'instant, c'est les gilets jaunes version 17 novembre. Vous avez ensuite accompagné l'évolution du discours vers davantage de...
Bah tout à fait, parce que
besoin de démocratie.
On s'est donc au début on s'est mobilisé pour ce pouvoir d'achat et on est tombé face à un gouvernement qui nous a pas entendu au fil des jours, 17, 18, 19, on nous a pas entendu. Et à un moment on a vu de plus en plus les Français, les citoyens qui étaient mobilisés les gilets jaunes dire on n'est pas entendu par cette classe politique qui nous méprise depuis 40 ans. Et c'est là que vraiment le besoin de démocratie est ressorti, le manque de transparence de la vie politique qui est incroyable en France, le manque d'information et le manque de concertation avec le peuple sont des choses qu'on ne devrait plus voir à l'heure actuelle.
Et ensuite comment vous êtes-vous retrouvé dans ce ralliement d'initiatives citoyennes?
Alors en fait, on s'est réunis, on a réuni plusieurs associations, plusieurs mouvements citoyens. On a décidé de travailler tous ensemble, ça n'a pas été évident. Certains voulaient aller aux élections européennes, d'autres non. Et on a décidé d'investir tous les champs, que ce soit les mobilisations le samedi, participer au grand débat et le champ électoral également.
Alors, avant d'y venir, qu'est-ce qui fait que vous vous retrouviez là, aux côtés d'Ingrid Levavasseur et pas avec Éric Drouet ou Maxime Nicole? Qu'est-ce qui a fondé votre identification à ce groupe-là?
Vous savez, aujourd'hui, si on veut changer cette classe politique, il y a vraisemblablement deux manières. Soit rester dans la rue, déclencher une révolution. On sait que 99% des Français sont contre la violence et condamnent les violences. Donc ça n'arrivera jamais. Et moi, j'ai pas envie de voir mon pays à feu et à sang.
Donc l'idée d'aller aux élections, pour vous, c'était une évidence?
Mais tout à fait. On est apolitique. Ça veut dire qu'on n'a pas de parti politique. Mais à partir du 17 novembre, lorsqu'on est sorti dans la rue pour parler du pouvoir d'achat, pour demander l'annulation de la taxe sur le carburant, on a fait de la politique. On s'est adressé au gouvernement.
Et là, vous êtes en train d'en créer de parti politique, non?
Parti citoyen. Parti citoyen, mais depuis le 17 novembre, on est politique. Quand vous parlez de RIC, quand on demande le référendum d'initiative citoyenne, c'est de la politique.
Oui, mais sauf que le RIC participe à l'idée d'une démocratie directe avec des citoyens qui décident sans filtre et sans représentant, alors que l'idée d'aller aux élections, c'est justement d'avoir des représentants.
Mais nous, ce qu'on veut, c'est aller aux élections, créer une plateforme où les citoyens, toutes les lois qui devront être votées à Bruxelles seront soumises aux citoyens et on écoutera le vote des citoyens. C'est les citoyens qui nous diront si on doit adopter ou pas cette loi.
Vous êtes compromis, disent d'autres gilets jaunes, vous êtes vendu au système.
Écoutez, moi je respecte chacun, hein. Chacun sa liberté de parole, sa liberté de pensée. Après, moi, comme je vous dis, hein, je soutiens toutes les actions qui sont bonnes pour la cause. Donc après, c'est une des façons de s'exprimer d'aller aux élections européennes.
Comme Dunis, numéro 2 de la liste du RIC, possible futur député européen. Alors je vais vous demander dans un instant, député, pourquoi faire ?
Europe 1, de 9h à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen pour C'est arrivé cette semaine sur Europe 1.
Avec comme Dunis pressenti pour être le numéro 2 d'une liste gilets jaunes européennes, liste créditée sans que ce nom soit apparu de 13% d'intention de vote selon un sondage paru cette semaine, ce qui vous donne des chances sérieuses d'être élu. Pourquoi faire au Parlement européen? Avec quel programme, comme Dunis?
Alors aujourd'hui, le programme, beaucoup de partis politiques n'ont pas encore sorti leur programme. Nous, on ne l'a pas encore sorti, on a déjà notre tête de liste. Certains partis politiques n'ont même pas leur tête de liste, donc on est déjà en avance sur eux. Maintenant, nous, ce qu'on veut vraiment, c'est enlever toute cette opacité qu'il y a entre le Parlement européen et les citoyens. Nous, on veut être les yeux et les oreilles des citoyens à Bruxelles. C'est-à-dire arrêter toutes ces corruptions avec les lobbyistes, ce manque de transparence. On veut vraiment que les citoyens aient une totale transparence avec leurs députés européens.
Dans le premier communiqué qui a été publié par le RIC, il est écrit « Nous ne voulons plus subir les décisions des instances européennes et les diktats des castes de financiers et de technocrates ». C'est ça aujourd'hui?
Tout à fait.
C'est comme ça que vous voyez la France, mais pays qui subit le diktat des castes de financiers?
Tout à fait. Regardez, quand Emmanuel Macron veut taxer les GAFA, on nous dit « Bah non, l'Europe l'empêche ». Pourquoi?
Aujourd'hui, il dit « La France va le faire, même si bloque en Europe ».
Il va le faire, mais pourquoi ça bloquera en Europe? Si la France veut le faire, on le fait. Faisons-le. Nous, on ne veut pas quitter l'Europe. On veut changer cette Europe qu'il y a actuellement.
Donc, plus d'Europe ou moins
Que la France retrouve de la souveraineté, que les citoyens...
Donc, moins d'Europe.
Il ne faut pas quitter l'Union européenne. Aujourd'hui, on a besoin de l'Union européenne. Mais que la France retrouve une part de souveraineté et que le citoyen soit au cœur de la vie politique du pays. C'est pour ça que nous, on veut vraiment prendre des décisions en accord avec nos citoyens. C'est nos citoyens qui... Nous, on ne sera pas les candidats d'un parti, on sera les candidats des citoyens. On sera les députés des citoyens.
Les citoyens sont aussi divers que les partis politiques, justement. Ils sont pas forcément... Il n'y a pas une opinion citoyenne.
Non, tout à fait. Mais est-ce que vous avez déjà vu un représentant demander à ses citoyens ce qu'il doit voter à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen?
Alors, c'est ce que vous ferez?
Tout à fait.
Pour élaborer le programme?
Alors, il y aura un programme, mais ça sera, voilà, on sera au service des citoyens. On leur proposera le projet de loi et c'est eux qui nous diront ce que nous devons voter.
C'est-à-dire, pour chaque projet, une fois élu, vous soumettrez ça à des formes de consultation en ligne?
Tout à fait.
Par Internet?
Ce qu'ils ne veulent pas nous proposer en France, on va montrer. On est capable de le faire pour cette première élection électorale qui sera les élections européennes.
10 noms ont été publiés, dont le vôtre. Il vous manque 69 candidats.
Oui.
Ils vont être désignés comment?
Alors, ils vont être désignés comment? Il y a un appel à candidature sur www.euroric.fr. Chaque citoyen est libre de déposer sa candidature et ensuite, on votera tous ensemble l'ordre de la liste.
Et vous, comment vous êtes vous retrouvez numéro 2?
On a voté, pareil, l'ordre de la
et
liste.
Et c'est qui on
bah, les personnes, les 10 premiers. Vous savez, il était essentiel de sortir...
Ah, vous avez voté entre vous, entre les 10?
Tout à fait, parce qu'on était là. C'était essentiel de sortir une liste rapidement. Parce qu'il y a des personnes de partis politiques qui voulaient sortir une liste gilets jaunes. Mmh. Donc pour nous, c'était essentiel que ce soit des vrais gilets jaunes qui soient mobilisés depuis le 17 novembre, qui n'ont jamais fait de politique ou qui n'ont jamais été élus ou des choses comme ça, qui prennent leurs responsabilités. On n'a pas envie de voir des anciens ministres ou des anciens sénateurs récupérer notre mouvement.
Certains dans ce groupe ont eu des engagements politiques.
Tout à fait. Marc Doyer notamment, je suppose que vous voulez parler de lui.
Oui.
Mais vous savez, on a tous voté, même moi je vous l'ai dit, hein, j'ai voté, on a tous participé à la vie politique de notre pays.
Marc Doyer était à La République En Marche, votre directeur de campagne a été au mouvement des jeunes socialistes.
Tout à fait, mais qui mieux que Marc Doyer peut aujourd'hui dire qu'il est déçu de la politique d'Emmanuel Macron en ayant participé à sa campagne justement.
Lui, c'est un gage d'indépendance, vous trouvez?
Bien sûr. Aujourd'hui, vous savez, on est le parti citoyen. On ne peut pas empêcher des personnes qui ont appartenu à des partis politiques ou à des syndicats de nous rejoindre. Ce qu'on veut, c'est qu'à l'heure actuelle, ils ne soient pas politisés. À l'heure actuelle, ce sont des citoyens. Et lui, Monsieur Doyer, a été déçu de la politique d'Emmanuel Macron parce qu'il était au cœur de cette campagne. Donc il était déçu de la politique d'Emmanuel Macron, comme des millions de Français. Voilà.
Comme votre présence européenne profiterait plutôt au pouvoir, au gouvernement, c'est ce que disent les sondages. Certains se demandent si le pouvoir n'a pas poussé en sous-main la constitution de votre liste.
Alors, ça me fait rire. Pourquoi ? Parce que je ne pense pas déjà qu'Emmanuel Macron n'apporte la classe politique est content de voir un parti citoyen arriver au pouvoir, présenter une liste électorale et proposer au peuple de choisir, vraiment. Deuxième chose, sondage avec ou sans gilet jaune, Emmanuel Macron finit premier. Enfin, la liste République En Marche finit premier. Donc, on ne les favorise pas. Et aujourd'hui, on prend plutôt des voix au Front National ou à la France Insoumise. Personnellement, moi, ça ne me dérange pas de prendre des voix aux extrêmes.
Ah, très bien. Donc, vous félicitez du fait que...
Je ne me félicite pas. Enfin, ça ne me dérange pas de prendre des voix à n'importe quel parti politique, à classe politique. Mais si c'est aux extrêmes, ça ne me pose aucun problème.
Bon, en tout cas, le gouvernement, les ministres ne vous ont pas aidé ou ne vous ont pas encouragé d'une quelconque façon.
Non, du tout.
Et Bernard Tapie?
Bernard Tapie non plus. Si c'est la question de savoir si Bernard Tapie finance notre liste, la réponse est non. Bernard Tapie ne finance pas cette liste. Maintenant, il nous apporte un soutien moral, Bernard Tapie. Mais moi, ma question, c'est surtout, on a un mouvement humaniste. On a un mouvement qui représente la misère. Moi, j'aimerais savoir où sont les artistes des Restos du Cœur. À aucun moment, les enfoirés nous ont tendu la main. Alors que c'est un combat, soi-disant, pour eux au quotidien. La seule personne qui nous apporte un soutien moral, c'est Bernard Tapie. Donc, à un moment, il faut arrêter de cracher sur cet homme-là qui apporte son soutien à la misère humaine.
Et vous lancez un appel aux enfoirés?
Je lance pas un appel. Moi, je lance un appel à personne. C'est eux qui auraient dû venir nous tendre la main au début.
Le financement, vous ferez comment?
Appel aux dons.
Appel aux dons pour...
Tout à fait. En plus, ça légitimera notre liste auprès des citoyens.
Ouais, c'est plafonné à 4000 et quelques euros pour...
4600, il me semble.
Voilà, pour une liste électorale. Donc, vous voyez un destin de député européen comme Nunes? Vous avez changé de vie?
Changer de vie, écoutez, moi le 17 novembre, quand je me suis engagé, je ne pensais pas du tout à ça. Hein. J'espérais que le gouvernement nous entende et fasse le nécessaire. Aujourd'hui, ils ne sont pas capables de le faire. Donc les citoyens vont le faire pour le gouvernement.
Merci, comme Denis. Numéro 2 de cette liste RIC aux élections européennes, derrière Ingrid Levavasseur. Merci d'être venu sur Europe 1.
Merci, monsieur.
Europe 1.
Dans un instant, une séquence, une invitée, un livre great, tremendous, énorme, formidable, merveilleux. On parle de la langue de Trump avec une traductrice qui, après s'être arraché les cheveux pour le comprendre et le traduire, en a fait un livre, Bérangère Viénot.
Europe 1. C'est arrivé cette semaine, continue sur Europe 1 avec vous, Patrick Cohen.
Et ce qui est arrivé cette semaine, c'est Donald Trump en échec hier soir après plus d'un mois de paralysie, après que sa propre... insistance à réclamer plus de 5 milliards de dollars pour financer un mur à la frontière sud des États-Unis empêche depuis le 22 décembre l'adoption d'un budget fédéral et le versement des salaires à quelques 800 000 fonctionnaires. Le président américain a donc renoncé, au moins temporairement. Les administrations vont se remettre au travail jusqu'au 15 février. C'est la nouvelle échéance fixée par Trump pour trouver un accord sur ce mur. Bonjour Bérangère Viénot.
Bonjour.
Traductrice de presse, vous publiez aux arènes La langue de Trump. Vous avez déjà entendu Trump reconnaître un échec ou une défaite?
Non, c'est vrai qu'à ce point-là, c'est la première fois.
Alors, il ne reconnaît pas. Il dit « je suis fier d'annoncer qu'un accord », etc. Mais
c'est ça, c'est très... Pour une fois qu'il y a des nuances dans le discours de Donald Trump, il n'annonce pas un échec. Et d'ailleurs, cette nuit, il a tweeté, enfin cette nuit pour nous, il a tweeté que les fake news avaient mal compris son discours, que tout le monde disait que c'était des concessions, mais que pas du tout. C'était une victoire pour lui, encore une fois.
C'est une victoire et c'est un geste pour, en direction des fonctionnaires... des administrations fédérales qui n'étaient plus payées depuis le 22 décembre. Et est-ce que vous l'avez déjà entendu formuler regret, excuse ou pardon?
Alors, c'est arrivé, oui, deux fois. La première
deux
fois,
fois.
Oui, deux fois, j'ai compté. La première fois, c'était à l'issue de la diffusion d'une, d'un enregistrement où il proférait des propos extrêmement injurieux envers les femmes, dont tout le monde se souvient. Et donc là, c'était pendant sa campagne. Il avait vraiment été obligé de s'excuser. Je pense que ça leur a peut-être coulé, ça, s'il n'avait pas fait.
Mais ça a dû lui faire mal.
Ça a dû lui faire mal, mais alors on peut douter que ça ait été des excuses sincères. Mmh. Et la deuxième fois, c'était lors de la nomination du juge à la Cour suprême Kavanaugh, qui avait été accablé par plusieurs femmes qui l'accusaient d'avoir eu des comportements très déplacés à leur égard. Et donc ce juge a quand même été nommé et confirmé par le Sénat. Et donc là, Trump s'est excusé au nom du peuple américain, mais c'était encore une fois, c'était une vraie entourloupe, c'est-à-dire que c'était une façon pour lui d'enfoncer tous les détracteurs de Kavanaugh et donc les siens qui avaient mis en question son choix. Donc c'était pas vraiment des excuses sincères, on peut pas dire ça.
Alors on parle avec vous, Bérangère Viennot, du langage de Trump qui vous horrifie et vous fascine à la fois. C'est une langue vulgaire, pauvre, sans nuance ni complexité, confuse. Souvent, dites-vous, on ne comprend pas ce qu'il veut dire littéralement.
Alors, on ne comprend pas ce qu'il veut dire, on ne comprend pas son message. On comprend très bien ses mots, puisqu'il a un vocabulaire extrêmement limité, très peu de mots. Alors, encore une fois, je vais revenir sur son discours d'hier où il a raconté, où il a expliqué que le gouvernement allait rouvrir. Il a utilisé 4 fois un mot assez recherché par rapport à son discours habituel, qui est le mot obsolète, qui est le même en anglais, obsolete. Et quand je l'ai entendu la première fois le dire, je me suis dit, tiens, il a appris un nouveau mot. Et en effet, oui. Il l'a dit 4 fois en 18 minutes, ce qui est quand même beaucoup pour un mot qui n'est pas non plus très très courant. Ouais. Même il l'a expliqué une fois, ce qui prouve qu'on avait dû lui expliquer juste avant. Mais sinon, le reste du temps, son vocabulaire est très simple. Donc les mots sont faciles à comprendre, mais la pensée derrière ne l'est pas, parce qu'une pensée trop simple, en fait, c'est trop creux. On ne peut pas vraiment chercher ce qu'il y a dessous. Il faut faire un vrai effort et ce n'est pas naturel.
Mais sinon, les mots qu'il utilise habituellement, j'en ai cité quelques-uns. Great, évidemment. Tremendous.
Tremendous. Good et bad aussi.
Tremendous, c'est énorme. À plusieurs reprises, écrivez-vous, des journaux ont publié le script intégral de leurs entretiens avec Trump, des interviews sans aucune retouche, et c'est ahurissant. Vous citez notamment une interview au New York Times, c'était quelques semaines après son élection, avant son investiture, et alors littéralement, ça donne « je le fais, je n'attaque pas Clinton, parce qu'il est temps de prendre une direction différente, il y a eu beaucoup de souffrance, et je crois que les gens qui me soutenaient avec un tel enthousiasme, où ils étaient capables de se pointer à 1h du matin pour écouter un discours. C'était le jour des élections, ils se sont pointés, donc c'était le jour des élections. Oui, je crois qu'ils comprendraient très complètement. Alors,
ne me demandez pas de vous l'expliquer.
Non, mais c'est une traduction littérale en français, mais les Américains ou les anglophones comprennent. C'est aussi chaotique pour un anglophone ou un Américain quand on lit cette phrase.
Et oui, justement, c'est aussi chaotique. Le problème est bien là, c'est que normalement, quand on traduit un homme politique, on traduit le fond de sa pensée. Quand il s'agit d'un discours oral ou d'une interview, comme dans ce cas, ou d'un débat, évidemment, l'éthique de langage, peut-être même un certain trac ou le fait qu'on ne sache pas exactement où il veut aller, peut expliquer qu'il y ait des maladresses. Mais là, c'est systématique. Donc le traducteur, au lieu de lisser un peu le langage pour extraire la pensée, pour être le plus clair possible, avec Trump, il est obligé de rester vraiment littéral parce que sa pensée est quasiment impossible à extraire, dans la mesure où même, je pense, pour lui, elle n'est pas forcément claire. Il a tendance, quand on le laisse parler, à partir, à faire des digressions dans tous les sens pour revenir souvent au même sujet qui est donc lui-même et sa victoire, et à ne pas répondre aux questions.
Des formules toutes faites qu'il emploie à longueur de discours et d'expressions. Personne n'est plus fort que moi en matière d'eux. Alors, vous complétez les mentions manquantes en matière de tout. Il est le plus calé dans tous les domaines. Où il y a encore cette expression, vous le soulignez dans votre livre, « Believe me, croyez-moi ».
And believe me, her and Bill had a bad evening. Believe me.
He still didn't believe me, but believe me, it is, okay?
Believe me, folks. Believe me. Believe me. Believe me. Believe me. Hey, believe me. Believe me. Believe me.
Voilà, alors, il y en a des dizaines sur cette vidéo. Qu'est-ce que ça dit, Bérangère Viennot, de Donald Trump?
Je pense que quelqu'un qui a autant besoin de rappeler à ses interlocuteurs qu'il faut le croire a peut-être des raisons, justement, de mettre en doute ses convictions et le message qu'il essaye de faire passer. C'est toujours un petit peu louche quand quelqu'un vous alpague et vous dit « Non, il faut que tu me crois parce que je te dis qu'il faut que tu me crois et non pas parce que j'arrive à te convaincre. »
Il a une syntaxe tourmentée, des expressions souvent confuses, mais c'est terriblement efficace auprès d'une partie du peuple américain. Le mur dont on parlait au début de cet entretien, c'est une trouvaille marketing géniale, en tout cas qui a très bien fonctionné pendant la campagne. Il faut un mur, on comprend tout de suite que physiquement, il faut ce mur et il le martèle tout le temps.
Mais oui, ce mur, c'est effectivement, je pense que c'est sa meilleure trouvaille parce qu'il s'y accroche depuis le début. Il s'y accroche encore maintenant et je pense que ça ira jusqu'au bout. Même si, comme on a vu hier soir, il peut faire quelques concessions ici et là. Il avait commencé déjà avant, il y a quelques semaines, en disant que bon, peut-être ce mur pourrait être une barrière en acier finalement, pas forcément un mur en parpaing. Mais c'est la chose à laquelle il se raccroche à la fois pour avoir lui des arguments de campagne et des arguments pour continuer de convaincre sa base et aussi pour passer pour un homme fort qui sait où il va et puis aussi pour, c'est une question alors là peut-être plus idéologique à laquelle il faut creuser derrière son vocabulaire si simple pour pouvoir plus facilement désigner des boucs émissaires dans la société américaine qui vont permettre peut-être de la diviser et de rassembler autour de lui, autour d'un danger réel ou fantasmé. Donc oui, ce mur, c'est une sacrée trouvaille.
Bérangère Viennot, La langue de Trump, votre livre aux éditions Les Arènes. Et puis je vous ai apporté ce petit gadget, vous voyez, c'est ce stylo Trump avec toutes ses phrases de campagne, par exemple.
I will be the greatest president that God ever created.
Voilà, je serai le meilleur président que Dieu a jamais créé pour les États-Unis. Merci Bérangère Viennot, merci à vous. Europe 1.